l'étude de Rock, ils nous ont démontré que l'alcool était aussi dangereux que l'héroïne et la cocaïne. Les conséquences globales pour la société coûtent à peu près 102 milliards d'euros par an. Si t'arrêtes de fumer, on te félicite. Si t'arrêtes de boire, on te demande ce que tu as, si t'es pas malade, si t'es pas enceinte. Ça va avoir un impact à peu près sur tous les organes et particulièrement le cerveau, le foie, tout le monde le sait, au niveau cardiovasculaire, au niveau de la peau, au niveau du pancréas, du système, tout le système digestif, l'estomac, etc. C'est un tueur de cellules, il y a une toxicité directe. On cite peu l'alcool comme cause, pourtant par ricochet, l'alcool est une cause d'augmentation de...
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'un thème dont on n'a encore pas parlé, il me semble, les gars. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme tous. Ça va, vous allez bien?
Très bien, merci.
Impeccable. Ah, je fais partie de l'équipe 1000% déjà, Christelle, c'est bon ça?
Et oui. On nous a dit, on se tutoie et tout, c'est parfait.
Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu clivant, on va pas se mentir, on va parler de l'alcool. On va essayer de voir hein, les mythes, les croyances autour de l'alcool et Christelle va nous apporter ses vérités. Donc, on va partir déjà sur le constat, les nombreuses croyances qu'il peut y avoir au niveau de l'alcool. Hein. Est-ce qu'un verre de bière est égal à un verre d'alcool fort? On verra la consommation aussi de l'alcool en France. Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? On verra aussi les différences qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme. On verra aussi l'impact que peut avoir l'alcool sur la santé. Est-ce qu'on peut boire un verre par jour? Est-ce qu'au contraire, c'est mieux peut-être de limiter un petit peu sa consommation ou même carrément d'avoir une tolérance zéro sur l'alcool? Donc, on a la chance d'être accompagné du Pierrot et de Vincent de la team 1000%. Et aujourd'hui, on va laisser quand même se présenter Christelle. Hein. Christelle, on va te laisser tranquillement le temps pour nos auditeurs. Prends ton temps, tu es dans 1000%. On va parler alcool. Donc, raconte-nous un petit peu ton expérience professionnelle et aussi ce que tu veux. Tu peux te présenter de toutes les manières que tu veux.
Christelle, mais surtout Docteur P. Bernard.
Oui, mais Christelle, ça me va très bien. C'est plus simple. Donc déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation et puis de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui est quand même hyper important. Donc moi, effectivement, je suis psychiatre addictologue et je suis aussi chef de service d'un XAPA, qui est un centre d'accompagnement et de prévention en addictologie, voilà, qui est rattaché à un hôpital psychiatrique. Il y a aussi une filière addictologique avec des lits de sevrage temps plein et un hôpital de jour. Voilà. Donc ça fait à peu près 25 ans que je traîne en addicto.
Et aussi autrice, t'as écrit un livre justement sur ce sujet-là de l'alcool.
Oui, j'ai écrit un livre donc qui est juste derrière moi, qui s'appelle « Mieux se protéger de la dépendance à l'alcool », édité aux éditions du Nod, qui est sorti il y a pile un an, le 2 janvier dernier. Et c'est un livre que j'ai voulu écrire qui prend un peu le contre-pied. C'est-à-dire un livre qui explique comment ne pas tomber dans la dépendance, enfin en tout cas qui essaye d'expliquer comment ne pas tomber dans la dépendance. C'est un livre très pédagogique, d'éducation à la santé. Voilà, donc j'explique tout ce qui se passe avant d'arriver à la dépendance, comment on tombe dépendant, quels sont les facteurs de vulnérabilité, etc., etc.
Ben super, c'est vrai qu'on a eu la chance de le recevoir justement en PDF. Donc un grand merci à la maison d'édition de l'avoir mis à disposition pour préparer ce podcast. Peut-être pour commencer, quelles sont les recommandations au niveau de l'alcool? C'est quoi? C'est tolérance zéro? Parce que ça, qu'on est dans un pays où on a eu cette culture quand même du vin, je crois qu'on l'avait, t'en parles dans le livre, à table aussi encore à la cantine il y a quelques années encore. Quelle est la recommandation à l'heure actuelle aujourd'hui?
Alors, il y a des recommandations essentiellement en termes de chiffres qui sont très utiles, mais qui restent des chiffres pour donner des repères et qui sont des recommandations OMS qui sont pas plus de tant de verres par jour. Donc, c'est en l'occurrence pas plus de deux verres standards par jour et pas tous les jours, c'est-à-dire avec au moins deux journées sans alcool pour un total de 10 verres standards par semaine. Et je pense que tout à l'heure, on reviendra un petit peu sur les verres standards. Hein. Tu me diras quand tu veux qu'on développe.
Tu peux en parler maintenant, c'est l'occasion.
Tu peux en parler maintenant. Donc un verre standard, c'est un repère aussi qu'on a donné pour que tout le monde puisse parler le même langage. Ça représente 10 grammes d'alcool pur. Donc 10 grammes d'alcool pur, c'est la dose qu'on te sert dans les bars, par exemple. Donc ça va être 3 centilitres, par exemple, d'alcool fort, si on parle de whisky ou de vodka. Et ça va être 25 centilitres de bière à 5 degrés, ou ça va être un verre de vin, donc le vin classique de 10 centilitres, quoi. Voilà, donc souvent, quand tu vas te servir un apéro à la maison, tu vas pas prendre 3 centilitres de whisky, tu vas souvent prendre un double sans t'en rendre compte. Voilà, donc pour se repérer et se comprendre tous, on a défini, c'est l'OMS, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'OMS qui a défini les verres standards. Voilà, donc ça reste des repères qui sont des repères, on dit, de consommation en fait à moindre risque. Hein, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que dans une grande étude faite aussi par l'OMS sur à peu près 600 000 personnes et sur plusieurs pays, donc c'est quand même une étude excessivement représentative, les chercheurs ont identifié le risque pour la santé au niveau global qui apparaissait entre 0 et 1 verre par jour. Voilà, donc au-delà de 10 verres par semaine, 2 verres par jour avec au moins 2 jours de stop, tu as un risque qui augmente de manière excessivement significative pour la santé. Et ça, quel que soit l'alcool, il n'y a pas des bons ou des mauvais alcools, c'est-à-dire que l'organisme, il va endosser des grammes d'alcool pur. Donc, je pense que tu me vois venir avec mes gros sabots, que ce soit du vin, du whisky, de la vodka ou autre chose, c'est toujours de l'alcool. D'accord ?
Et on parle de l'OMS, donc c'est l'Organisation Mondiale de la Santé.
Mondiale de la Santé, oui.
Et c'est pas l'Organisation Mondiale du Moindre Risque. Pourquoi ils donnent une recommandation du moindre risque et pas d'une recommandation optimale de santé?
Parce que l'alcool est culturel, excessivement intégré en France et en Europe, et que ça paraît quand même compliqué de l'interdire. Voilà. Après, pour la santé, l'idéal, c'est de ne pas boire du tout. Il y a des personnes ou des lobbies de l'alcool, des personnes aussi qui te disent à juste titre que la vie est un risque. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, même dans notre alimentation générale, il y a des pesticides, il y a ceci, il y a cela. Donc, à chaque fois qu'on ingurgite quelque chose ou qu'on fait une activité, on va prendre un risque. C'est pas faux. Donc, ce risque-là, il a été aussi mesuré en demandant à la population quel risque ils étaient d'accord, quel risque ils étaient d'accord de prendre pour continuer à consommer cet alcool. Et ce risque-là, donc c'est un risque de 1%. Donc c'est le risque tolérable, si on veut. Voilà. Après, chacun fait son choix, mais effectivement, le message important de dire aux personnes, c'est de leur dire c'est une consommation à moindre risque et c'est pas sans risque. Après, chacun fait son choix. Tu vois, ça, c'est l'éducation à la santé. C'est-à-dire, je te donne les informations objectives et après, tu choisis ta posture.
Et c'est vrai quand... Vas-y, Pierre, vas-y.
On parle quand même de drogue. C'est une drogue ? Est-ce que c'est une drogue dure, l'alcool ? C'est comment la classifier par rapport, au tabac et à l'héroïne ? Comment se placer ?
Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que... En fait, au niveau de l'effet, l'alcool est une drogue. Pourquoi ? Parce que elle agit comme un psychotrope au niveau du cerveau, et l'alcool est capable de modifier nos comportements et nos perceptions au niveau du cerveau. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un psychotrope, c'est une drogue. Elle est aussi capable d'installer une dépendance. Voilà. Maintenant, la représentation qu'on en a, comme c'est extrêmement banalisé et normalisé, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux. Aussi parce que c'est autorisé. Donc, on a un biais cognitif qui dit, puisque c'est autorisé, c'est que c'est pas dangereux. Ça, c'est pas vrai. Et on a notamment une étude qui a été sortie il y a quelques années, l'étude de Rock, qui avait été demandée par un des ministres de la Santé ou secrétaire au ministère de la Santé, qui a fait une étude en termes de dangerosité des drogues. Et là, ils nous ont démontré que l'alcool était aussi dangereux que l'héroïne et la cocaïne et le tabac.
Donc mais ça, là, on parle ça de... fait... Excuse-moi, Christelle, oui. On parle de quoi ? On parle en termes dangereux par rapport à la santé, par rapport à l'addiction, par rapport à quoi on parle ?
Eh bien, justement, c'est une dangerosité globale, parce que la dangerosité, elle va se mesurer en termes de conséquences sur ta santé. Et la santé, c'est pas que la santé physique du corps, c'est aussi la santé psychique et la santé sociale. Donc la santé psychique, c'est comment tu vas, est-ce que tu es angoissé, déprimé, etc. Et ta santé sociale, c'est les conséquences sur ta vie sociale. Par exemple, est-ce que tu arrives en retard au boulot parce que tu as pris une cuite la veille et que tu as la gueule de bois, ou tu es en retard régulièrement au travail, donc tu perds ton emploi. Ou bien si tu consommes trop d'alcool et que tu es inadapté dans ta vie, ton conjoint, ta conjointe te quitte, ça fait partie de la santé. Tu vois, au-delà de l'effet aigu. Donc nous en fait, on est sensible, le cerveau humain est sensible à ce qui est un peu spectaculaire. C'est-à-dire, tu prends de la drogue, tu fais une overdose, ça se voit tout de suite et ça impacte. Mais par contre, on est beaucoup moins exposé aux drogues comme la cocaïne ou l'héroïne qu'on est exposé à l'alcool. Et les dégâts de l'alcool se font dans le temps. Donc en fait, la dangerosité se mesure aussi à l'impact et au temps d'exposition. On est exposé à l'alcool toute notre vie, tout le temps. À tous les coins de rue, on nous incite à consommer. C'est socialement intégré, donc on va nous proposer à chaque fois, voire nous encourager à consommer. L'alcool est aussi banalisé. Par contre, les dégâts se font sur le long terme, tout doucement. Ça ne se voit pas forcément. Et donc, on a l'impression que c'est pas dangereux. Voilà. Mais la dangerosité, en fait, elle prend en compte tout ça. Tu vois, la durée d'exposition, les conséquences, comment elle s'installe, et les conséquences non seulement sur toi, sur la société, sur ton entourage et sur toutes les composantes de ta santé. Et là, tu as vraiment une vision objective. Et là, ça a été démontré donc que l'alcool arrive en numéro un et de loin en termes de dangerosité. Maintenant, en termes de pouvoir addictif, c'est pas... celle qui provoque le plus d'addiction, on est d'accord.
Parce que c'est la plus exposée.
Si.
C'est la drogue la plus commercialisée, elle est de partout, oui. Elle est socialement imprégnée dans notre société. C'est pour ça que c'est la plus dangereuse.
Et c'est ça, parce que c'est la plus banalisée en fait. C'est la dangerosité qui ne se voit pas.
Après, Christelle, on
Voilà,
est là
parce qu'on
aussi
la
pour dire
balle.
qu'on a tous bu des coups, hein, les auditeurs qui écoutent cet épisode, on n'est pas
De
là
manière
pour...
plus ou moins importante.
Voilà,
Bien
on a eu
sûr.
quelques variations avec l'alcool et on a été les premiers à, voilà, à boire des verres d'alcool. Donc on n'est pas là pour non plus
Et on en
culpabiliser
boit
les gens qui
encore, hein.
écoutent ça, mais plutôt pour
Oui, bien
comprendre
sûr, mais on
l'impact.
n'est pas du tout là, justement. C'est pour ça que j'essaye d'avoir un discours le plus objectif, c'est le pas diaboliser, mais simplement responsabiliser et dénormaliser, en fait.
Il y avait quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune. C'était en cours de bio où on nous avait sorti un tableau comme ça avec addiction physique, addiction psychique. Et tu vois sur, je crois, addiction physique, l'alcool c'était aussi puissant que l'héroïne.
Oui.
Et donc je m'étais dit quand même, ça m'avait surpris que ce soit à part égale avec un truc qui me paraissait d'une violence inouïe. Et le tabac, addiction psychique aussi importante que l'héroïne également.
Oui. Mais
Est-ce que ça paraît quelque chose de toujours juste ou est-ce que c'est je sais pas.
si, si, c'est vrai, parce que quand on parle de dépendance, c'est pareil, il y a trois composantes. Il y a la dépendance psychique. Donc, en gros, c'est ce à quoi la drogue te sert. Qu'est-ce qu'il y a derrière son utilisation? Est-ce que tu l'utilises parce que tu es stressé, parce que tu es triste, parce que, voilà, ça, c'est le pourquoi je consomme. Il y a le corps qui s'habitue. Ton corps qui s'habitue, et quand tu n'en as plus, t'es en manque physiquement, donc t'as des symptômes physiques de manque. Et puis, il y a l'automatisme, c'est-à-dire la dépendance comportementale, qui s'installe parce que tu répètes un peu toujours le même schéma comportemental, le même rituel de consommation, si on veut, et ça s'imprime. Par exemple, quand tu as appris à faire du vélo tout jeune et que tu arrêtes, tu reprends 20 ans après, t'as pas oublié le vélo, tu sais toujours comment ça se passe. La conduite, c'est pareil, ça s'imprime dans ton cerveau et après tu conduis de manière automatique. Bah, dans les addictions, tu as une composante pareille d'apprentissage qui passe par le cerveau automatique et qui fait que tu installes. Tu vois, le cerveau apprend le comportement et le répète de manière automatique. Donc il y a toujours ces trois composantes. Et c'est vrai que l'alcool provoque une dépendance physique importante. On peut mourir d'un sevrage d'alcool. C'est à peu près une des rares drogues dont on peut mourir. Si on fait un sevrage tout seul, non accompagné, on peut en mourir. C'est quand même quelque chose de grave.
Et si on devait faire le classement des drogues les plus addictives, pour peut-être nos auditeurs, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des jeunes aussi qui vont écouter ce message et de faire attention peut-être à pas commencer certaines drogues. Bon, on conseille de toutes les éviter, bien sûr. Et quel est vraiment le top 3, top 4 sur lequel il faut vraiment faire attention parce qu'on a un risque important de devenir dépendant?
En termes de pouvoir addictif, bah c'est
Oui.
quand même héroïne, cocaïne, tabac, hein, qui sont les plus addictives. L'alcool arrive en quatrième position en matière de pouvoir addictif. Mais
Ok.
héroïne, cocaïne, tabac, hein, le top 3.
On discutera après du système de récompense et je pense qu'on verra
Oui.
ça par la suite, oui.
Oui, bien sûr. Et parce qu'en plus, dans le livre, tu dis que l'alcool, excuse-moi Vincent, est plus dangereux que le cannabis. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je pense
Oui.
95% des gens ne pensent pas. Et pourquoi est-ce que tu pourrais nous le justifier? Parce que c'est vrai que nos auditeurs risquent d'être surpris par cette phrase. Est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît?
Bah parce que l'alcool, justement, installe des conséquences. Enfin, quand tu mesures donc la dangerosité, les conséquences globales pour la personne, pour son entourage et pour la société coûtent, pour te donner une idée, à peu près 102 milliards d'euros par an. Si on compte toutes les conséquences de l'alcool, tout ce que ça induit,
En
donc
France?
sur ta santé physique, ta santé psychique, ta santé sociale et les conséquences pour ton entourage aussi, par exemple, Quand une personne est addicte à l'alcool, les conséquences sur l'entourage sont considérables. Tu as en moyenne entre 5 et 7 personnes qui souffrent. Tu vois, des conséquences de celui qui consomme.
C'est en France, non, pour les chiffres ?
En France, oui, oui, en France. Hmm. En France.
Voilà. Et tu disais, là, c'est vraiment l'exposition à l'alcool qui est un problème. Oui. Comment, c'est quoi les facteurs de prise de conscience on commence à déclencher une addiction ou un comportement autour de l'alcool ? Quels sont les premiers facteurs qu'on pourrait prendre en compte ?
Bah, en fait, en termes de dépendance, quel que soit le produit, quand la dépendance, on va un peu la définir comme une perte de liberté de s'arrêter. Quand tu perds, quand tu n'arrives plus à t'arrêter, quand tu consommes plus que ce que tu avais prévu, parce que ça t'échappe, quand tu commences à y penser toute la journée, que le produit prend toute la place et que tu fais passer ça en premier, hein, ta vie se centre autour du produit, là, faut vraiment se poser des questions. Si tu continues à consommer malgré des conséquences graves, par exemple, tu arrives systématiquement en retard au travail ou tu as perdu ton permis. Malgré ça, tu ne peux pas t'empêcher de continuer à consommer. Là, il faut vraiment se questionner et se dire qu'est-ce qui se passe.
Oui, mais moi, Christelle, je m'arrête quand je veux. C'est pas un problème.
Oui.
Moi, c'est pas pareil.
Bien.
Oui, bah ça, on l'entend tellement de fois. C'est
quoi le break test, tu sais? Je suis désolé, je te coupe parce que j'avais pas fini, oui, je pense. L'idée, c'est se dire, est-ce que je me dis, OK, pendant un mois, j'essaye de pas consommer d'alcool. Et si j'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Que ce soit
voilà,
sociétal.
Par exemple, c'est,
social.
Ben là, on vient de passer le défi de janvier. C'est exactement l'objet du défi de janvier, tu vois, par exemple, où pendant un mois, on invite les gens, pas forcément à arrêter complètement, c'est pas une injonction à l'arrêt, c'est la déclinaison française, mais on invite les personnes à au moins réduire leur consommation et surtout à s'éprouver, à se questionner sur qu'est-ce qui se passe lorsque je m'interroge sur ma consommation. Pourquoi je consomme, à quoi ça me sert, quelles remarques on va me faire aussi, hein, parce que parfois c'est pas, ça passe très bien, mais parfois quand on dit non merci, je ne consomme pas d'alcool, il faut se justifier. Hein, c'est quand même un des seuls produits psychotropes, on le répète, mais peut-être pas encore assez, je le répète encore, pour lequel il faut se justifier. Pourquoi tu bois pas ? Pourquoi on ne boit pas ? Ça paraît louche. Par contre, pourquoi on pose jamais la question pourquoi tu consommes pas de cocaïne ? C'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est quand même la vérité.
Oui, c'est vrai.
Voilà, si tu arrêtes de fumer, on te félicite. Si tu arrêtes de boire, on te demande ce que tu as, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas enceinte, si tu n'as pas un truc, si tu n'es pas ex-alcoolique. Enfin, c'est louche, tu vois.
Mais ça, c'est de notre propre volonté, donc individuelle. Et qu'est-ce que fait la France ? Que met la France en place pour, si vraiment c'était une drogue, quelles sont les dispositions que notre État prend pour notre santé ?
Bah, pas assez. C'est un sujet assez polémique, hein. Par exemple, le défi de janvier n'est pas financé par l'État. Ça a été refusé, hein. Le mois sans tabac du mois de novembre est financé par l'État. Le défi de janvier, non. Donc ce sont c'est un collectif d'associations autour de la Société française d'alcoolologie, d'Addicted, et des associations d'entraide autour de la CAMERUP, hein, le collectif des associations et mouvements d'entraide comme Vie Libre, la Croix Bleue, Entraide Addict, etc., qui autofinance ce mouvement. Donc voilà, parce que il y a des enjeux des lobbies de l'alcool et qui sont
coupé.
Et des enjeux économiques importants.
Non, mais c'est important parce que mais l'État oui. est et là oui. aussi pour nous protéger en fait, et là pour prendre soin de ces individus. C'est oui. Si on n'a pas notre propre volonté individuelle, il y a aussi une force collective qui doit intervenir pour notre santé.
Et mais l'économie, c'est aussi un moyen de protéger certaines personnes qui travaillent. Il y a aussi des gens qui sont derrière, des viticulteurs. Et, enfin, c'est malheureux, mais c'est aussi un contexte global qui fait
je pose la question sur le verso en santé. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est ça, c'est pour ça que c'est pas un sujet qui est facile, et c'est pour ça qu'il est si polémique, et que le discours, c'est pas de diaboliser ni d'interdire, mais c'est de dire la vérité. Seulement, on dit pas vraiment la vérité.
Et je pense pas que le lobby du vin soit assez puissant pour pouvoir interagir et intervenir pour créer ce genre de choses, que c'est quand même beaucoup d'indépendants. Par contre, les grosses sociétés de vente d'alcool fort ou de vente de bière, pour ne citer personne, bon, on voit bien la puissance que peuvent avoir ces marques-là pour rajouter à consommer avec modération sur les bouteilles d'alcool fort. Ce que je t'entendais dire dans un autre podcast, c'est le podcast de Gégé Raff qui était passé, qui était top.
C'est l'exemple typique, hein, c'est que les recommandations pour la santé,
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Voilà, c'est la phrase, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et les lobbies de l'alcool ont exigé de rajouter derrière, à consommer avec modération. Donc la deuxième phrase annule la première et sous-entend, si on consomme avec modération, alors il n'y a pas de problème, ce qui n'est pas le cas, puisque on est dans une consommation à moindre risque. Donc ça, c'est typiquement hypocrite.
On aurait pu mettre nocif dès la première goutte.
Oui.
Après, il y a quand même une amélioration. On voit que la consommation quand même en France diminue depuis maintenant 50 ans, 60 ans, je crois, tu en parles dans le livre. Mais tu dis qu'il y a quand même 10 millions de personnes qui sont au-dessus des recommandations. Ça reste quand même important. J'étais un petit peu surpris par le chiffre. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est vraiment typique à la France ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est dans ce pays-là. C'est vrai que culturellement, nous, il y a plein de choses où je pense qu'on a... Pour nous, c'est une normalité. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai été surpris par ce chiffre de 10 millions. Je ne sais pas vous, les gars, ce que vous en pensez, mais je trouve ça impressionnant.
Moi, là, je vis à Paris et je peux te dire qu'il y a la moitié des Parisiens qui sont à la bière après le travail. Mmh. Hein. Donc, ça fait du monde hein, quand même en terrasse.
Il y a des tas, mais globalement, la consommation a baissé depuis les années 60. Essentiellement parce que les gens consomment moins de vin. Et moins de vin à table tous les jours. Donc c'est une consommation chronique quotidienne qui s'est réduite. Maintenant, à table, on boit plus d'eau que de vin. Mais par contre, les consommateurs qui consomment sont des consommateurs avec un problème d'alcool, qui ont un usage problématique. Et par exemple, 54% dans les chiffres officiels, 54% de l'alcool vendu en France est consommé par 10% des consommateurs. Donc c'est très concentré en fait. Il y a moins de consommateurs global, mais il y a toujours autant de consommateurs problématiques. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est vrai que c'est 10 millions qui dépassent les repères de consommation à moindre risque, 5 millions qui ont un usage nocif et 2 millions de dépendants. Ça fait encore du monde hein, quand même. Hein.
Et justement, c'est quoi ces profils à risque parce que tu en parles justement dans le livre. Tu parles peut-être qu'il y a des facteurs aussi génétiques, il peut y avoir des traumas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement on n'est pas tous égaux aussi par rapport à l'alcool ?
On n'est pas tous égaux par rapport ni à l'alcool ni à toutes les drogues. Hein. Donc on parle de facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire ce qui te fragilise a priori vis-à-vis de l'alcool, ce qui te rend plus vulnérable vis-à-vis de l'alcool. Donc il y a 50% de la vulnérabilité, de la fragilité qui est prédéterminée génétiquement. Donc j'ai pas dit que c'était héréditaire, attention, j'insiste toujours là-dessus, c'est important, mais ça veut dire que si on a un proche qui a eu un problème d'alcool, on a deux fois plus de risques d'en avoir un. Ça veut pas dire qu'on l'aura forcément, mais ça veut dire qu'il faut faire deux fois plus attention. Et ensuite, il y a tout ce qui est influence de l'entourage. Donc, entourage, ça veut dire culture déjà. Donc, on est dans un pays où la culture de l'alcool est installée. L'entourage, c'est l'éducation. Par exemple, si tes parents consomment tous les jours, tu vas considérer que c'est la normalité de consommer tous les jours. Ou si tu vois tes parents prendre des cuites régulièrement, tu vas trouver ça banal. Ou si tu as des parents qui te sensibilisent à la consommation à moindre risque, tu n'auras pas la même vision. Après, tu as l'accessibilité du produit en fonction de l'environnement dans lequel tu vis, de tes copains, des influences. Bon, là, on est quand même beaucoup influencé par beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite, il y a ton histoire personnelle, ce que tu as traversé. Est-ce que tu as eu une vie plutôt tranquille ou est-ce que tu as eu des traumas graves, des séparations? Il y a des moments de vie de fragilité. Si à un moment donné, tu te sépares, tu fais une dépression, tu as un accident, tu perds ton boulot, enfin, je rajoute un peu, mais pour faire comprendre, là, tu vas traverser un moment de fragilité qui fait que peut-être qu'un bon copain va dire, bah, tiens, bon, un coup, ça va te faire du bien, et boum, tu peux tomber dans le piège. Donc, effectivement, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte, encore une fois, et personne n'est à l'abri. Ça peut traverser tout le monde à un moment donné de sa vie.
Super. Peut-être juste avant, merci beaucoup Christelle, juste avant de partir peut-être sur les impacts sur la santé, je me permets juste de faire un petit peu de publicité pour un événement qui nous tient à cœur, c'est le sommet de l'hyper santé qui se tiendra le 21 et 22 mars à Paris. C'est justement, il y a plein de conférenciers, il y aura notamment des thèmes qui sont variés avec des médecins, il y aura vraiment de tout. C'est l'événement longévité en France, on sera présent pour tourner des podcasts sur place. Vous avez d'ailleurs le lien en dessous pour vous inscrire. Excuse-moi Christelle. Et on repart.
Et il n'y a pas d'alcool à l'événement. Et c'est vrai, en plus, ils ont tenu à cœur, Junaït et Anna, que je crois que c'est le soir hein, à l'événement, il n'y a pas d'alcool du tout. Pour eux, ça fait partie de la logique de longévité, de santé, que le zéro goutte. Hein.
Et voilà. Donc justement, pourquoi zéro goutte? Quel effet sur... Excuse-moi hein, Christelle pour cette petite parenthèse, mais c'est important, je pense, de faire un petit peu de pub sur des événements comme ça qui ont du sens et qui nous correspondent. Par rapport à l'alcool, quel impact sur la santé? Sans rentrer peut-être trop dans le détail, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau une fois qu'on a ingéré de l'alcool?
Bah en fait, une fois que tu as ingéré de l'alcool, l'alcool passe très vite dans tout le corps. Et l'alcool est à peu près toxique pour tous les organes. Il va se diluer dans l'eau, et dans l'eau, tu en as partout. Voilà, donc ça va avoir un impact, comme je viens de le dire, à peu près sur tous les organes, et particulièrement sur certains, comme le cerveau, le foie, tout le monde le sait, le cerveau particulièrement. Et puis bah aussi au niveau cardiovasculaire, au niveau de la peau, au niveau du pancréas, du système, tout le système digestif, l'estomac, etc., etc.
Donc, on après, avait reçu
développer un petit peu, mais
si tu peux y aller. On avait reçu Vincent Foulonneau, je sais pas si vous vous souvenez les gars, il nous avait parlé que l'alcool c'était un signal apoptotique, donc ça allait en fait, donner l'information aux cellules de mourir. Est-ce que c'est réellement le cas?
Ça tue, c'est un tueur de cellules. Il y a une toxicité directe, bah, typiquement sur la peau, sur les vaisseaux sanguins, par exemple. Il y a une toxicité directe. Au niveau cardiovasculaire, il va augmenter la pression, provoquer une augmentation de la pression artérielle avec les risques d'AVC, hein, accident vasculaire cérébral, on en parle énormément. On cite peu l'alcool comme cause, pourtant par ricochet, l'alcool est une cause d'augmentation de la tension artérielle et des AVC directement. L'alcool n'a métaboliquement aucun intérêt parce qu'il n'est pas stocké, il n'apporte rien, contrairement à ce que certains disent, hein, l'alcool n'apporte aucun nutriment intéressant pour l'organisme. La preuve, c'est que pour l'organisme, c'est une urgence métabolique à éliminer. Donc, ton corps directement reçoit l'information qu'il faut éliminer ce truc-là et il va bloquer le métabolisme de tout le reste pour l'utiliser en premier, pour l'éliminer. Donc en fait, lorsque tu fais un gros repas, en général, on fait un gros repas bien riche, puis on boit en même temps, exactement ce qu'il faut pas. Et du coup, on va tout stocker. Au lieu de brûler les calories de ce qu'on ingère, on va les stocker parce que ton corps va vouloir éliminer prioritairement l'alcool. Et comme ça n'est pas stocké, bah, c'est transformé en petites graisses qui sont les acides gras qui ont le pouvoir de se déposer au niveau cardiovasculaire. Voilà. D'autre part, donc au niveau du foie, l'alcool est éliminé essentiellement par le foie. Le foie le transforme grâce à deux enzymes, le transforme en premier produit qu'on appelle l'acétaldéhyde, et celui-là est cancérigène. Donc c'est un produit toxique et cancérigène. Lorsque tu consommes trop, ça va se stocker dans tes cellules, et de là la preuve donc que l'alcool est un cancérigène de niveau 1, c'est-à-dire niveau 1, ça veut dire que c'est prouvé, il est à l'origine de 7 cancers voilà, sur l'homme. Donc tout le tube digestif, le foie, tout le monde le sait, le tube digestif, on le sait moins. Le cancer du sein chez la femme, en général, on le sait très peu. Voilà, donc il y a ça. Sur le cerveau, c'est vraiment un tueur de neurones. Donc voilà, l'alcool monte directement au cerveau en fait hein, en quelques secondes. Ça n'a même pas besoin d'être métabolisé. Hop. Voilà, avec tous les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, les carences en vitamine B aussi. Hein, ça empêche l'absorption des vitamines B et ça provoque un certain nombre de maladies neurologiques graves. Enfin voilà, il y en a. C'est plus de 200 maladies, hein, donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais
C'est déjà pas mal.
Mais comment
c'est
on arrive
déjà
à...
pas mal.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Ouais,
Comment on arrive à
ouais.
définir, parce que tu nous parles de cancer, de maladie, et on
Ouais.
comprend que c'est multifactoriel. L'alcool est un facteur, tu dis un facteur direct. Comment définir
Oui.
vraiment l'origine d'un cancer?
Bah en fait, dans les études, ils font des liens directs où la preuve est faite de manière directe entre l'origine du cancer et l'impact de l'alcool. Donc c'est un lien direct qui a été prouvé. Tu vois, entre le cancer et l'alcool, et ça a été fait donc pour le sein, le côlon, la bouche, le foie, l'œsophage, voilà. Je crois que j'avais regardé à peu près les chiffres, et la raison, c'est pourquoi, c'est tu parlais de mort cellulaire tout à l'heure. La mort cellulaire, elle vient aussi parce elle est induite aussi par le fait que l'alcool va directement altérer l'ADN, notre ADN, tu vois, donc qui est le chromosome, enfin le support de notre code génétique. Donc voilà, donc c'est un poison direct. On n'est pas fait pour consommer de l'alcool en grande quantité.
Pierre.
Je crois me souvenir que Vincent Foulonneau, pareil, qu'on avait reçu, et il me disait que la gueule de bois, c'était le symptôme même d'une destruction massive de neurones. Est-ce que tu valides cette information, ou ça peut peut-être sensibiliser les gens à se dire, bon, mais
Ouais.
quand je bois, en fait, je brûle toute la forêt, quoi. C'est catastrophique.
Oui, il y a ça, il y a la déshydratation, l'alcool déshydrate, hein. Donc il y a
Pourquoi?
aussi le parce que ça fait perdre de l'eau, en fait. Donc là, et ça donne un ordre au cerveau de perdre de l'eau, en fait, au niveau de la glande pituitaire, c'est un gros mot. En fait, ça dit au cerveau, élimine ton eau. Donc ça déshydrate.
Pour
Contrairement
éliminer l'alcool, c'est que tu peux nous en dire un peu sur le processus d'élimination de l'alcool, comment ça se passe?
L'alcool est éliminé par le rein, tout simplement, après passage dans le foie. Donc oui, c'est éliminé avec l'eau, si on veut.
Et en combien de temps ça se passe? Excuse-moi Vincent, en combien de temps on met vraiment pour éliminer l'alcool?
Alors le verre, un verre standard, c'est en moyenne 1h30 à 2h. Ça dépend après de ta corpulence, de ton métabolisme. On peut éliminer plus ou moins vite. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait penser à une idée reçue souvent, c'est que les gens ont, c'est que rien n'accélère l'élimination de l'alcool. Rien ne peut aider à éliminer plus vite. Il y a que le temps, il y a que le foie et le rein qui peuvent l'éliminer à leur vitesse. Tout à l'heure, je te parlais des enzymes du foie. Donc, les enzymes du foie, elles peuvent éliminer à peu près un verre en 1h30 à 2h et pas plus, quoi que tu fasses. Et si tu bois plus, ben tu stockes et tu mettras plus de temps à éliminer ton alcool. Donc c'est vraiment au rythme de ton métabolisme. Il y a rien à faire pour accélérer ou pour aller plus vite.
Il y a pas à aller courir un peu, Christelle.
Non.
C'est ce que j'allais dire.
Ni manger. Ça va te stimuler, ouais, peut-être.
Ni manger, c'est vrai qu'on a cette stratégie de éponger. On dit souvent, je vais éponger, je vais manger un double kebab, comme dit Pierrot. Non, ça marche pas aussi.
Alors en fait, quand tu manges avant de boire, faut manger avant de boire ou en consommant de l'alcool, tu vas l'absorber moins vite. C'est pas que tu vas l'absorber moins, mais tu vas l'absorber moins vite. Ton pic va être plus lent. Donc, ça va donner plus le temps à ton foie de l'éliminer. C'est tout. Voilà. Par contre,
comme la glycémie,
en général,
on va lisser l'alcoolémie.
Ouais, ça va lisser l'alcoolémie, mais tu mettras toujours autant de temps. Les grammes d'alcool mettront toujours le même temps à s'éliminer au total. Voilà. Et par contre, quand tu manges après, ça sert à rien. Souvent, on prend d'abord l'apéro et on mange après. Donc, en fait, on t'en vend rien parce que l'alcool est déjà passé.
Et l'élimination de l'alcool, ça utilise les mêmes voies de détoxication du foie? On a vu sur le podcast les polluants, les médicaments qui vont être détoxiqués par le foie. Est-ce que ça utilise ces mêmes voies?
Oui, ça utilise les mêmes voies et ça interfère aussi avec les médicaments et ça modifie justement le métabolisme des médicaments. Par exemple, si t'as un traitement antidépresseur et que tu consommes en même temps, l'alcool va provoquer, en fait, va emballer ton foie et va provoquer la destruction de ton traitement. Donc, ça empêchera ton traitement d'agir, par exemple.
Il y a aussi le fait, c'est bien, Vincent, je pense, de rappeler ça, c'est la consommation d'antidouleurs, par exemple de Doliprane avec l'alcool.
Oui.
C'est les mêmes voies d'élimination et donc on est susceptible de saturer le système d'élimination du foie et donc en fait est-ce qu'on peut dire de créer une hépatite médicamenteuse qui serait plus
plus
susceptible. Si c'est chronique, hein, on s'entend, mais si c'est répété, quoi, en fait.
Oui. Oui, tout à fait. On majore les risques de d'hépatite et de cirrhose médicamenteuse du foie, oui. Parce que le foie va être surchargé. Et le paracétamol, c'est un très bon exemple, parce que c'est un médicament qui est très banalisé et très, très surconsommé.
Et qui a aussi qui utilise cette voie de détoxication, d'élimination. Mmh. Est-ce que tu pourrais rentrer juste un petit peu dans l'inflammation du foie? C'est vrai que moi j'ai des souvenirs quand j'étais petit, qu'il y avait des cirrhoses, c'était assez commun. Là, j'en vois un petit peu moins, en tout cas j'en entends moins parler. Comment le foie perd sa fonction?
En fait, on passe par différentes étapes et l'étape avant le foie, c'est différentes étapes d'inflammation en fait. Donc le foie va s'inflammer et se gorger de graisse. Ça va devenir une éponge à graisse jusqu'à se cirrhoser. Quand il est cirrhosé, c'est qu'il devient dur comme de la fibrose. Et ça, on peut le mesurer maintenant avec des petits appareils qui sont des appareils comme des échographies. et qui s'appelle des fibromètres. Et justement, les personnes qui consomment de l'alcool depuis un moment, on leur propose cet examen qui mesure l'élasticité du foie, en fait. Et donc, tu as un résultat qui va de F1 à F4, enfin de F0 à F4, et qui mesure donc la fibrose et la stéatose. Donc, la fibrose, c'est l'élasticité, donc le foie qui devient dur, fibreux. Et la stéatose, c'est la quantité de graisse accumulée dans le foie. Et ça, ce sont les étapes quand tu es à F3, S3, il faut vraiment t'arrêter parce que c'est le stade pré-cirrhotique.
Oui, tu passes d'un foie qui est entre le liquide parce que je ne sais pas si vous avez déjà mangé du foie, mais il y a une consistance très particulière au foie et à la fin on arrive sur un steak trop cuit quoi, c'est ça l'histoire.
C'est ça, oui. En fait, le foie c'est une éponge, c'est un gros filtre, donc c'est un peu une éponge remplie de sang. Donc voilà, c'est le plus gros filtre, c'est le carrefour du métabolisme en fait, le foie, c'est celui qui va le plus détoxifier notre corps. Après c'est le rein. C'est vrai que le foie, c'est vraiment le carrefour du métabolisme et c'est lui qui va se prendre toutes les cochonneries qu'on va avaler dans notre journée.
Et merci pour toutes ces précisions. Et maintenant, au niveau des modes de consommation, est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé juste pour nos auditeurs? Donc, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait faire attention à l'alcool. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez une tolérance zéro par rapport à l'alcool, quel est votre mode de consommation, si bien sûr vous voulez partager ça avec nous et de liker la vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller justement entre quelqu'un qui ne boirait pas de la semaine et le week-end va peut-être faire... boire 4-5 verres, entre quelqu'un qui, au contraire, boirait peut-être tous les jours, ou au contraire, quelqu'un qui boirait que tous les deux jours. Comment se placer vis-à-vis de ça? On l'a bien compris, là, avec le moindre risque, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé?
En fait, c'est très individuel, cette histoire-là. Donc, il y a le moindre risque qui donne, en fait, un repère global qui est très utile, déjà en termes de pas plus de 10 verres par semaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10 verres par semaine à moindre risque, c'est des quantités lissées, progressives sur la semaine, parce que faudrait pas que la personne comprenne qu'elle peut boire d'un coup 10 verres le week-end. Parce que boire beaucoup d'un seul coup, c'est beaucoup plus toxique pour l'organisme et notamment le cerveau. Ça va être un tsunami qui va effectivement provoquer une toxicité importante par un apport majeur brutal d'alcool. Donc si on consomme, il faut toujours avoir dans la tête que chaque fois qu'on prend de l'alcool, il faut se modérer à pas plus de 3 verres par prise. Donc ça, c'est 2, c'est mieux. Enfin, 2 verres, je pars en verre standard, hein, toujours. Déjà, ça, c'est la première notion.
Et il faut rappeler les verres standards après, Christelle. Parce que je pense que la pinte, c'est pas un verre standard. Hein.
C'est 2 verres standard.
C'est 2 verres standard. C'est pas...
C'est 2 verres standard.
Non, c'est 10 grammes d'alcool pur, donc 3 centilitres d'alcool fort.
Ah, il faut le mesurer, ça. Avec les petits...
Ça, oui, on peut le mesurer. Il y a des abacs, il y a des petites réglettes hein, pour mesurer justement les...
Ouais, c'est le jigger pour faire standard. Les cocktails, pour les aficionados, là.
Ouais.
Les petits ouais, jiggers, ouais. Mais ça permet de contrôler la dose que vous mettez. Sinon, c'est à l'œil et
puis,
ça, c'est
et
pas
Et puis,
bon.
Surtout, ce qui est... En termes d'individualité, il faut pas oublier, ça, c'est important, au-delà des verres standards, de voir sa situation individuelle et ses vulnérabilités individuelles. Hein, au moment où on va consommer, comment on est, dans quel état d'esprit on est, et est-ce qu'on doit aussi prendre le volant. Tu vois, tu peux considérer que tu as bu que, entre guillemets, 4 verres standards, c'est pas si pire, mais si tu dois prendre le volant derrière, tu te mets en situation à risque. Par exemple.
On parle vraiment pour la santé, là. Hein. Reste focus sur ça. Je vais te demander de trancher. Là, j'ai été gentil par rapport à ma première question, mais je vais être peut-être un petit peu plus difficile. Ça va être un petit peu plus difficile à répondre. Mais qu'est-ce que tu préfères, donc, une personne qui consommerait tous les jours de l'alcool? Et après, à quelle limite ça serait, au contraire, par exemple, en prenant une autre personne qui va prendre une cuite, par contre? Donc, ça serait quoi? Une cuite par trimestre? Une cuite tous les semestres, une cuite par an, ou est-ce que même une cuite par an, il vaut mieux boire tous les jours pendant un an? où c'est que tu te placerais par rapport à ça? Désolé, mais ça peut être intéressant pour les auditeurs qui se rendent compte que vaut mieux peut-être boire un verre tous les jours pendant un an plutôt que prendre une énorme cuitasse une fois par an.
C'est intéressant pour nous aussi. Hein.
Oui.
En termes de risque, il n'y a pas photo parce que en exposition, tu vois, en risque aigu, tu prends un verre, t'es en dessous de la, t'es sur une consommation à moindre risque. Et l'impact va être minime, c'est sûr. Maintenant, si tu prends une grosse cuite, même qu'une seule fois par an, cette grosse cuite-là, il peut t'arriver un gros pépin. Donc, je vais jamais le conseiller. Il peut arriver quelque chose de très grave, même une seule fois. Donc, c'est clair que la grosse cuite, je vais te dire non, c'est sûr.
Moi, j'ai une petite question sur les antécédents, parce que ici, autour de la table, on est tous passés en études de kiné ou en études de médecine. Les cuites sont passées avec nous aussi. Quels sont les dégâts? Est-ce que j'ai un pouvoir de régénération derrière? Quels sont les stigmates que ça peut me procurer dans ma santé?
Ça, c'est une bonne question. Ça dépend de la durée et de la répétition, hein. Et aussi individuellement, on a des vulnérabilités individuelles, si jamais pareil pour tout le monde. T'as toujours des personnes qui vont dire, oui, moi, je connais machin, qui a picolé toute sa vie, et puis il a jamais rien eu, hein. Ma grand-mère Berthe, qui est morte à 95 ans, et elle buvait son petit vin rouge tous les jours, midi et soir. Voilà, moi je peux donner des contre-exemples de patients qui ont été tués par l'alcool en 4 ans, tu vois, simplement.
Non, je pense que est-ce que tu peux juste nous rappeler les consommations d'alcool, quelles seraient les limites? Comment est-ce que je me positionne, Christelle? Parce que socialement c'est vrai que ça peut être compliqué d'arrêter. Je pense que c'est juste une barrière mentale. Les expériences à faire pour soi-même, je pense que c'est intéressant de faire un test, d'arrêter pendant un mois. On est face aux pressions nous environnant, ça nous permet de faire un état des lieux. Mais après, il y a cette période d'un mois de tester, comme ça on voit aussi quel est notre rapport par rapport à la consommation. Si c'est de la consommation, comme tu disais, tu sais, de émotionnel, ou si c'est du plaisir, est-ce que c'est sociétal, ou est-ce que c'est même on n'en a pas envie et on nous pousse à consommer. Donc c'est en fait elle est c'est la plus nulle de consommation, finalement. Si on n'en a pas envie, qu'on nous a forcé, c'est il y a même pas y a
c'est
même
ça,
pas tellement d'intérêt, quoi.
Oui, tout à fait. C'est plus ça paraît naturel à la personne et plus ça va paraître naturel à l'entourage. Je pense que se questionner, de savoir déjà pourquoi je consomme, pourquoi je vais consommer, si c'est simplement un plaisir de consommer pour le goût, l'instant d'échange et de convivialité, est-ce qu'on a forcément besoin de consommer un alcool ou est-ce que ça peut être autre chose? Par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas l'alcool et qu'ils n'osent pas dire non. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pourquoi ne pas partager un moment de convivialité sans alcool? C'est vrai qu'on dit souvent, les addictos, on dit souvent, c'est pas l'alcool qui fait la convivialité, ce sont les gens qui font la convivialité. Donc on pourrait théoriquement boire un peu n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi. Enfin, on peut boire autant sans alcool, pourquoi pas une tisane, un thé ou autre chose. Et pourquoi se sentir obligé forcément de boire de l'alcool déjà? Après, on peut avoir envie de déguster un bon vin. Il n'y a pas de problème. C'est surtout se questionner sur le partage, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière boire de l'alcool? C'est surtout ça, je pense, la question.
Tu vois, les quantités, ça me paraissait assez important quand même, 10 doses par semaine.
C'est beaucoup, oui.
Oui, parce que tu dis que 1% de risque avec quand même 10 doses par semaine. Moi, ça me semble quand même beaucoup, tu vois. Et,
c'est déjà beaucoup.
Ouais. Et comment, quelle serait la stratégie? Parce que on aime bien être un peu hybride. utile, tu vois, dans ce podcast. Et tu vois, une vraie stratégie.
On aime bien faire
de
les choses
dire...
en conscience, en fait.
Oui, bah, il faut faire les choses en conscience, je pense. Oui. Et de se dire, bon, mais d'accord, je consomme de l'alcool parce que c'est le moment, que ça s'y prête et je suis conscient de ce que ça, des conséquences que ça peut avoir. Sur une journée, quel serait pour toi l'optimum de consommation d'alcool sur une soirée? Tu te dirais, ok, limitez-vous à 3 verres, parce qu'après, du coup, sur les 2-3 prochains jours, votre foie, il va pouvoir récupérer ça. Donc, toi, tu dis pas 2 jours d'affilée. Ça, c'est pas idéal. Ce serait une journée que de doses, avec 2 jours d'écart entre une nouvelle prise d'alcool.
On se fait un fractionné d'alcool, en fait.
Oui,
un jour mais... avec, un jour sans, la dose parfaite.
Et non, mais tout le monde a compris que c'était à partir de zéro. Non, la première goutte est nocive. Donc,
c'est ça.
Pierre, je pense que le message, c'est zéro goutte. C'est le message de base. Et puis après, chacun fait en conscience avec...
c'est ça, là, chacun fait en conscience. Moi, je me garderais bien de donner des stratégies, mais le message, c'est surtout ça. C'est les deux par jour et pas tous les jours avec au moins 2 jours, c'est le moindre risque. Maintenant, c'est toujours nocif et c'est nocif pour tous les organes. Questionnez-vous sur pourquoi vous consommez, parce que finalement, c'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de à quoi ça vous sert finalement de consommer de l'alcool. Si on consomme parce que on est triste ou parce que on est stressé, c'est déjà un piège. Si on a des antécédents de proches qui ont eu des problèmes d'alcool, faut être particulièrement vigilant. Est-ce que je suis toujours libre de mon choix réellement, ou alors est-ce que je suis dans le flou et que je me mens un petit peu à moi-même? Voilà, donc attention aussi, l'alcool permet l'expression de la violence, donc ça n'ajoute rien à la relation, ça enlève les filtres, par exemple. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à dire.
Tu parles de quantité d'alcool, donc tu dis deux maximum par jour. Peut-être que ça serait mieux de faire un le midi et un le soir. On a vu le temps d'élimination, peut-être que ça semble logique de faire ça. Mais au niveau de la qualité aussi de l'alcool qu'on va boire, est-ce qu'il y a une différence?
Ça ne change rien.
Oui, mais je l'entends sur l'alcool pur. Mais est-ce qu'il y a peut-être des alcools qui ont d'autres substances à l'intérieur? Donc, ça ne serait pas que l'alcool, mais peut-être, par exemple, dans le vin, il peut y avoir certains produits, il y a des viens bio, pas bio. Il y a peut-être d'autres alcools forts, peut-être qu'il y a des molécules aussi qui sont évitées. Je ne suis pas du tout expert du sujet. Mais est-ce qu'il y a des adjuvants? Est-ce qu'il y a des produits sur certains alcools qu'il faudrait encore plus éliminer?
Donc, en fait, quand tu rentres dans sa ville, Christelle, c'est Béziers, il y a un panneau de 6 km sur 10 où il y a marqué capitale mondiale du vin.
Ouais, plus grand vignoble du monde.
La question ne me gêne absolument pas.
Non, mais c'est intéressant. On peut optimiser son apéro, se dire bon, mais je me fais un petit plaisir. Peut-être qu'il y en a un qui est moins pire que les autres. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais peut-être que c'est le moins pire.
Non, soyons clairs. Ce qui est toxique pour le corps, c'est l'alcool.
C'est l'éthanol.
Donc, l'éthanol, exactement. C'est l'éthanol. Donc, que ce soit de l'éthanol, de vin, de whisky, de bière, de ce que tu veux, c'est toujours aussi toxique. Qu'il y ait des trucs et des machins à côté où certains te démontrent que ça serait protecteur pour la santé.
Non, au contraire, ma question, c'était est-ce qu'il y avait des choses en plus dans certains alcools qui seraient encore pires, en plus de l'éthanol? Donc du coup, des molécules qui seraient en plus de l'éthanol et qui seraient nocives, comme peut-être les sulfites dans le vin, qui peuvent être peut-être négatifs pour la santé. Est-ce qu'il y aurait d'autres alcools
Oui, certainement, mais ça dépend. Ça dépend aussi de comment le vin a été produit. Donc oui, s'il y a d'autres produits nocifs, ça s'ajoute.
Excuse-moi de t'interrompre, juste je finis.
Quand tu prends des alcools sucrés, tu rajoutes la toxicité du sucre à la toxicité de l'éthanol. Donc c'est sûr, ça s'additionne dans ce cas.
Je me permettais juste, Christelle, parce qu'à cette phrase, excuse-moi, je te coupe, il y a des gens qui disent « Oui, mais là, c'est un alcool de bonne qualité, le lendemain, j'ai pas mal à la tête ». quelque chose qu'on entend beaucoup aussi. Hein. Donc je sais, c'est pour ça que ça je me permets de poser cette phrase.
Oui, oui, tout à fait. Mais j'entends et c'est des choses que j'entends moi aussi et qui me font sourire. Mais ça, ce sont des fausses croyances et des idées reçues. L'éthanol, c'est l'éthanol, et peut-être que la personne a pas mal à la tête le lendemain, pas parce que ça, soi-disant, un alcool de qualité, mais peut-être parce qu'elle a moins consommé ou qu'elle a bu plus d'eau, qu'elle s'est moins déshydratée, mais ça n'a rien à voir avec la toxicité de l'alcool ou sa qualité. Le foie, il fait pas la différence entre un éthanol ou un autre, donc ça, ce sont des idées reçues.
Et j'ai vu des chiffres passer de la nouvelle génération, parce que les gars, on n'est plus de la nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui nous montre aussi l'exemple. La consommation d'alcool a vraiment chuté pour les jeunes. Et il y a aussi, tu parlais de la sociabilisation, vraiment ce contexte sociétal lié à l'alcool pour connecter avec les gens. Ben, il y a d'autres modes. On peut voir qu'il y a des running clubs, il y a des cours de sport. Les gens sociabilisent aussi différemment. C'est peut-être une porte de sortie par rapport à cet alcool qui est sociabilisé.
Mais tu peux prendre un Perrier aussi quand tu vas en terrasse de café. Perrier citron, c'est
peut-être
l'alternative.
C'est un problème, le Perrier, moi, quand j'en prends trois, après, tu vois, j'y perds goût, il me manque. Il n'y a pas un substitut d'alcool sans éthanol qui relâche un peu la pression,
tu sais. Ils ouvrent des caves maintenant sans alcool exprès avec des bouteilles. Mais toi, tu dois connaître le Pierrot, non ? Tout ça ?
Ouais, ouais, parce que
oui,
ma femme, il y a
des caves sans
enceinte,
alcool.
Elle a pris. Il y a des trucs qui existent, mais c'est des espèces. Ça peut ressembler un peu hein, au niveau du goût, etc.
C'est boisson fermentée.
Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, le kéfir. Le kéfir, kombucha, c'est des boissons qui
changent. Il y a un petit peu d'alcool parce qu'il y a un peu de fermentation, mais en toute petite quantité.
Oui.
Non, mais après, la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'une substance pour se relâcher ? Et si oui,
relâcher. Vincent est tombé dans le piège. Hein. Vincent est tombé dans le piège, là.
Eh oui. Et si tu as besoin d'un produit pour te relâcher de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et est-ce que tu peux pas faire autrement ?
Va courir, Vincent.
Il y a la question du relâchement, mais il y a aussi la question de boire un bon vin, par exemple, un vin de qualité. On peut apprécier aussi ce que nous raconte le vin. Tu vois, il y a aussi
tout ça
derrière.
Ben, c'est là où je te disais, c'est pourquoi tu bois ? Est-ce que tu veux partager quelque chose que tu apprécies au niveau gustatif, en petite quantité, voilà, pour le plaisir du goût, ou est-ce que tu as besoin d'un truc pour te relâcher ? Tu vois, ça, c'est exactement la bonne question. Si j'ai besoin d'un truc pour me relâcher, attention.
Est-ce que c'est de la gastronomie ? Est-ce que c'est lié à ça ? Ou est-ce que c'est psychique ?
C'est la recherche d'un effet psychotrope. Mmh. Ouais.
Mais
cachet d'anxiolytique, je te poserai la même question. Tu vois.
Je fais un petit parallèle avec le sport. Là, j'y pense. Je vois aussi beaucoup de personnes qui sont addictes au sport. Est-ce qu'on peut avoir une addiction à la pratique sportive qui va aussi modifier un petit peu notre chimie, qui a peut-être un effet aussi psychotrope qui peut créer un peu d'addiction ?
Ben, quand tu fais du sport, tu sécrètes des endorphines. Je pense que voilà, vous le savez, vous les kinés. Après, est-ce que c'est réellement une addiction ? Parce que tu vois, une addiction, il y a quand même la notion de perte de contrôle et d'impact. C'est-à-dire que l'addiction empêche la personne de fonctionner normalement et prend le dessus sur toute sa vie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment ça ? Pour l'instant, l'addiction au sport n'est pas reconnu officiellement. Moi, je dis pas l'un ou l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment une addiction ou c'est une pratique excessive, tu vois ?
Mais est-ce qu'on peut être addict à quelque chose qui est positif ? Par exemple, plus tu nous exposes l'addiction et l'alcool. Moi, je fais mon parallèle avec le café. Je pense que je suis addict au café. Je suis en conscience, donc j'essaye de gérer. Mais il y a des gens aussi qui peuvent se laisser emporter par leur pratique sportive. Est-ce qu'on peut parler d'addiction, même si l'activité en soi est positive à la base ?
Bah, en fait, ça me paraît compliqué parce que l'addiction entraîne des conséquences négatives. Donc, ça va pas avec la définition de l'addiction.
Okay.
Ce serait quelqu'un qui ferait du sport, qui continuerait à faire du sport malgré qu'il se soit fait des claquages, des fissures de ménisque, des entorses, tu vois. Ça
ou être addict aux légumes, quoi. Être addict tous les jours, il faut manger des légumes, ben ouais, c'est plutôt pas mal.
C'est intéressant.
Faudrait que les légumes te rendent malade.
Voilà.
Tu vois, et que tu continues à en manger.
Ça peut être possible.
Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, c'est chronophage. Ça peut aussi impacter sur sa famille. Ça peut aussi
c'est ça.
S'il fait pas de sport, il peut être aussi impacté dans sa santé mentale. Enfin, il y a une question.
C'est ça,
de...
la définition de l'addiction, c'est tout ça, c'est tout ce que tu dis. C'est vrai qu'on dit, moi, je suis addict à ci. Par extension, on utilise beaucoup ce mot. Pour dire j'en fais beaucoup et j'en ai besoin, mais c'est pas réellement des addictions finalement.
Vincent parlait de la caféine, c'est quand même une substance psychoactive qui ne modifie pas la perception du réel, comme va être l'alcool. Est-ce que c'est une drogue?
Bah, la caféine, ça peut devenir une drogue, oui. Ça peut être un psychotrope. Psychotrope, ça veut dire qui agit, au niveau du cerveau, qui modifie ton comportement dans le sens où si tu en consommes plein, tu vas être énervé. Tu vas être énervé, agité, donc ça impacte et ça modifie ton comportement.
Ok. Et deuxième question, je suis choqué qu'on ait parlé du sucre quand même, Christelle. Première drogue vendue en France et dans le monde. Celle qui cause le plus de décès à travers le monde, celle qui est la cause de toutes les maladies métaboliques dont on peut connaître l'existence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire?
Ah bah le sucre, je pense qu'il commence à y avoir un petit peu de sensibilisation parce qu'il y a pas mal de marques qui ont réduit les quantités de sucre quand même. Au niveau des yaourts, des compotes, surtout pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même nettement moins sucré. Donc, l'éducation du goût avec des choses moins sucrées. Les sodas aussi, ça commence...
Attention au bluff, regardez bien l'étiquette, les auditeurs de 1000%. Ouais. C'est ça qui fait foi. Observez, parce que parfois le marketing est terrible et l'étiquette, elle est encore plus derrière.
Je crois que dans le livre de l'eau.
C'est du courant en plus qui mettent. De toute façon, le sucré, il faut le remplacer par quelque chose. Sinon, les gens, ils se désavouent du produit parce qu'il a beaucoup moins de goût.
Tu soignes des gens addicts au sucre?
Non, on ne les voit pas dans les XAPA. Je pense qu'ils sont suivis plus au niveau de nutrition, des diététiciens. Voir les médecins de ville, les médecins généralistes, ou alors effectivement il y a, comme tu dis, des conséquences métaboliques, donc ils sont suivis au niveau par des diabétologues ou des endocrinologues. Mais nous, moi j'ai jamais vu en XAPA de demande pour addiction au sucre.
C'est Laurent Schwartz qu'on va recevoir, qui est oncologue, qu'on va recevoir bientôt dans le podcast, qui disait que dans les années 1950, on consommait à peu près 1 kilo de glucides par an, et maintenant, on est passé à 40 kilos par personne, donc fois 40 en l'espace de 60 ans, c'est quand même énorme. Oui. Donc, faire attention à ça. Et aussi, dans son livre, il parle de la robustesse de la femme. Il dit que la femme vit plus longtemps que l'homme, que la femme a moins de chances de développer un cancer que l'homme. Et est-ce que l'alcool, ça ne serait pas justement le point faible peut-être des dames? Je t'en parle justement dans ton livre, Christelle, qu'on mettra toujours, on rappelle, on mettra le lien en description. Pourquoi, justement, on voulait finir par ça? Pourquoi la femme a plus de... on va dire, de risques avec l'alcool que l'homme, même si l'homme, bien sûr, a des risques. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer cette particularité?
Alors, sur le plan physique et métabolique, la femme est plus fragile parce qu'elle est plus petite. Elle a plus d'eau dans le corps et moins de... Elle a moins d'eau, pardon, dans le corps, plus de graisse, moins d'eau et moins de muscles. Donc, comme l'alcool se dilue dans l'eau, à quantité égale, l'alcool se dilue dans moins d'eau chez la femme que chez l'homme. Donc, si je consomme autant d'alcool qu'un homme, à poids égal, comme j'aurai plus de graisse et moins d'eau, mon alcoolémie sera plus concentrée, donc ça va augmenter. Donc il y a ça, c'est mathématique. Il y a le fait que la femme a des enzymes du foie moins efficaces, donc on élimine l'alcool moins vite. Donc la femme est impactée plus vite et plus durement, elle est plus fragile vis-à-vis de l'alcool.
Quelles seraient les recommandations ajustées pour la femme alors? On ne peut pas être à 10 doses par semaine pour le moindre risque.
Alors, les recommandations ont été posées pareil. On n'a pas fait de différence pour l'homme et pour la femme. Ça reste des moyennes, hein, mais ça compte, ça aussi, ça compte. Encore une fois, ce sont des repères de consommation à moindre risque, mais ça, c'est un critère si je suis un homme ou si je suis une femme. Et en fonction de ma taille, si je suis une petite femme de 45 kilos ou une grande femme de, je sais pas, d'1m80 et 75 kilos, c'est pas la même chose non plus.
Donc on, hein,
y a
on,
des
on divise.
Qui me... Pardon?
On diviserait donc si on est. Parce qu'ils sont pour qui ces chiffres? Ils seraient pour une personne qui fait combien? 60 kilos à peu près? Je pense que le poids, ça peut
c'est
être
ça,
un bon indicateur.
Ce sont des chiffres moyens. Mais il y a des réglettes qui sont assez intéressantes. On peut le retrouver sur notamment sur le site d'Addiction France. Il y a des réglettes qui te donnent la durée d'élimination en fonction de ton poids et de la quantité que tu bois. Et ça, c'est très intéressant. Une femme de tel poids qui boit tant de verres standard va mettre tant de temps à éliminer. Tu peux comparer le temps entre un homme et une femme. Ça peut donner des indications intéressantes. J'en ai mis une dans mon livre, d'ailleurs.
On regardera tout ça. Et moi, j'ai une dernière question. Peut-être qu'on va arriver vers la fin du podcast. Je pense que Vincent et Pierre auront peut-être une dernière question. C'était par rapport à l'âge aussi de début de consommation et également de fin de consommation. Je pense qu'à partir de quel âge on pourrait dire qu'un adolescent, un jeune adulte peut commencer à boire de l'alcool à moindre risque, toujours pareil. Et aussi, dans l'autre sens, est-ce que plus on vieillit et plus il faut faire attention à sa consommation? Est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur ces deux âges?
Oui. Je te remercie de poser tes questions. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. C'est très intéressant. Donc déjà, aux deux pôles de la vie, c'est pour les jeunes déjà, c'est le plus tard et le mieux. Une chose hyper importante à savoir, c'est que la maturation du cerveau se termine pas avant l'âge de 25 ans, en moyenne. Et le cerveau est particulièrement sensible, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, au niveau de l'alcool. Donc, chez les jeunes, plus ils consomment tard, et mieux c'est. Et contrairement aux idées reçues, le fait d'éduquer son jeune à la maison à boire de l'alcool n'est absolument pas protecteur. Ça a été étudié largement au niveau d'études scientifiques qui montrent que éduquer son jeune à l'alcool à la maison, ça ne protège pas du tout, voire le contraire. Donc, plus on commence tard, et mieux c'est. Voilà, le cerveau des jeunes mature aussi d'arrière en avant, et les pouvoirs régulateurs du cerveau se trouvent, pour simplifier, hein, à l'avant du cerveau. Donc, un jeune n'a pas la capacité de réguler, si bien que si on lui donne de l'alcool trop tôt, il va risquer de développer une addiction beaucoup plus vite et beaucoup plus gravement que s'il boit plus tard, quand son cerveau est terminé. Voilà, donc le plus tard est le mieux, déjà. D'autre part, le cerveau des jeunes est beaucoup plus sensible à l'alcool aussi au niveau réactivité. Donc, à quantité égale, quand un jeune boit, ça va lui faire beaucoup plus d'effet que quand un adulte boit. Et pour autant, ça va lui faire plus d'effet, pour autant, il va être moins endormi. Donc, ça donne une fausse impression de bien supporter l'alcool. Tu vois, je sais pas si je suis claire. Donc voilà, il va pouvoir se permettre de consommer plus et se retrouver dans des états de déchirement complètement délirants. Donc c'est extrêmement dangereux pour le cerveau des adolescents, cette histoire-là. Et à l'autre extrême de la vie, à partir de 65 ans, hein, les recommandations sont réduites, donc c'est pas plus de un verre par jour et pas tous les jours. Voilà, on divise par deux. Pourquoi? Parce que le métabolisme se ralentit, parce que le cerveau est plus fragile, parce que souvent il y a des médicaments, il y a des maladies, de l'hypertension, etc., etc., avec potentiellement, comme on a dit tout à l'heure, des médicaments et des mélanges qui vont pas bien ensemble. Donc voilà, en gros pour.
Merci.
On a compris pas trop tôt et pas trop tard. Et au milieu, si on écoute ce podcast, si on t'écoute Christelle, ben il y a certaines personnes qui vont peut-être se reconnaître, qui vont vouloir passer à l'action. Et tu sais, entre la prise de conscience, la volonté et le passage à l'action, parfois on a besoin d'aide. Oui. Quel serait le parcours pour prendre appui sur un spécialiste et pour avancer vers ce chemin?
Je pense que le premier recours, ça peut être son médecin traitant. Hein, faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant et d'aller vers nos centres, vers l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. On peut retrouver des annuaires de ces centres sur Alcool Info Service, par exemple, sur Addiction France, sur Addicted. Tous ces sites-là répertorient tous les centres spécialisés en addicto. Et puis ne pas hésiter, surtout, on n'a pas besoin d'avoir un problème gravissime pour venir dans un XAPA. On peut venir juste pour prendre de l'information, on peut venir parce qu'on est inquiet pour un proche. L'entourage est reçu aussi, c'est important, pour demander des conseils, pour faire un point. Voilà, on n'est pas obligé de vouloir changer tout de suite. Hein, dans l'EXAPA, on reçoit les gens là où ils en sont. On force pas, on force jamais la parole, on accompagne et on y va progressivement. Donc voilà, on n'est pas obligé non plus d'avoir envie de parler, de raconter sa vie. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter à venir faire un point, ou pour soi ou pour un proche. Ouais, c'est jamais trop tard. Hein. Je pense que c'est jamais trop tard. Et surtout, faut ouvrir la parole parce que comme on dit, il y a beaucoup de déni, on se ment beaucoup à nous-mêmes. Donc, dans l'EXAPA, on a l'habitude, on ne juge pas. Donc, les personnes ne pas hésiter à venir et à raconter, à parler de leur addiction. C'est là où on va pouvoir les aider.
Et aussi aux auditeurs de ne pas réagir quand quelqu'un vous dit qu'il ne veut pas boire ou quoi, c'est normal. Des fois, c'est des petites phrases bêtes, oui. Des automatismes, mais je pense que maintenant, ça commence petit à petit à être intégré par le plus grand nombre et tant mieux pour tous. Est-ce que vous avez une dernière question, les gars, pour Christelle, pour résumer tout ça? Je pense que ça a été très complet. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, nous mettre les 5 étoiles et poser vos questions. Si Christelle a 5 minutes, elle viendra faire un petit tour avec le lien de son livre en description. Est-ce que un dernier mot pour la fin, peut-être Vincent, Pierrot, est-ce que vous avez une dernière question?
C'est bien.
Si, il y a une chose
bien.
Qu'on n'a pas dit, allez, avec donc, voilà. La grossesse, c'est zéro alcool pendant la grossesse.
Et
on
oui,
l'a pas dit
et
ça.
Oui.
Juste la clope.
Non, la clope non plus. Merde. Ah, c'est zéro. Hein.
Oui. Zéro. Pour la maturation de l'encéphale du fœtus, c'est catastrophique.
Ah ouais, c'est tellement toxique neurologiquement que là, il n'y a pas moyen. Grossesse, allaitement, tolérance zéro.
Ça passe dans le lait. Hein.
Tout passe dans le lait.
J'ai testé, j'ai fait un test sur l'alcoomètre sur le site. J'ai testé, ouais, avec 5 verres sur le week-end. Et bien, c'est pas moindre risque, hein, Christelle. Hein. Là, je suis, si je fais ça toutes les semaines, je suis à plus 17% de risque de cancer de l'œsophage et plus 13% de risque du cancer de la bouche et du pharynx.
Ouais, ça fait réfléchir. Hein.
C'est pas rentable cette histoire.
Ah non.
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 Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on va également faire un épisode qui sera peut-être prochainement disponible avec toi, Christelle, sur un autre sujet, sur justement les traitements médicamenteux auxquels il faut faire attention. Donc, on vous mettra peut-être le lien en description s'il est déjà dispo, ou sinon, il faudra patienter quelques semaines pour avoir cet épisode-là. Un grand merci, Christelle. Tous les liens sont en description. Et à bientôt pour un nouvel épisode, alors.
À bientôt et merci beaucoup.
Salut, ciao, tout le monde. Ciao. Pas trop.